C'est de vous amener l'Église entière dans ce tournant où on n'est pas seulement en train de vivre des bons temps ensemble, mais ce que nous avons, on le partage. Ce que nous avons, on le vit dans les maisons. Le dimanche matin, c'est le prolongement de ce qui se vit dans nos familles, dans les foyers. Bien sûr, c'est un grand défi. Bien sûr, c'est pas facile. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit de la religiosité. On n'est pas en train de dire au travers de ces messages, faites encore. Mais notre désir, c'est que vous soyez poussés par le Saint-Esprit, que quelque chose se passe. C'est le Saint-Esprit qui peut faire l'œuvre, ce n'est pas nous. Mais ces messages ont pour but de vous encourager à vraiment vivre ce réveil dans vos vies, dans vos familles, pour que beaucoup puissent connaître Jésus, que vos maisons, vos foyers soient comme des lieux, des repères où des gens de la ville vont pouvoir venir, parce qu'ils sauront que là, on parle de Jésus. Là, on connaît Jésus. Donc voilà, c'est toujours important de rappeler que il faut pas vous mettre de pression. Puis je le dirai plusieurs fois, l'idée, ce n'est pas de mettre une pression sur vous ou de la culpabilité pour ce que vous n'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui. C'est juste vous encourager, dire, est-ce que on peut aller un peu plus loin? Est-ce que j'ai soif de voir Dieu agir d'une manière nouvelle dans ma maison, dans ma vie? Et certainement que plusieurs le vivent déjà. Et on va en parler, on aura quelques petits témoignages tout à l'heure. Alléluia pour ça. Et puis, les témoignages, on aura trois témoignages aujourd'hui, dont un qui sera filmé, vidéo, donc ça ne vous touche pas, bah, c'est tellement loin que. Que de toute façon, l'idée du témoignage, c'est de dire, ben regardez ce qui peut se passer dans une maison. Mais ce n'est pas une manière de faire, ce n'est pas dire faites la même chose. C'est juste dire, ben voilà comment nous on le vit, comment nous on a reçu quelque chose, puis on veut le vivre. Donc c'est important, ce n'est pas une histoire de comparaison. Hein, ce n'est pas voilà ce que vous devez faire. Mais c'est simplement dire, ben, est-ce qu'on peut s'ouvrir à l'œuvre de Dieu dans nos maisons? Et on espère que ces témoignages vont y contribuer ce matin. Alors j'aimerais commencer avec cette petite vidéo que j'ai déjà montrée la semaine dernière, mais pour tous ceux qui n'étaient pas là, parce que vous savez, à l'escale, il y a comme une super rotation, un petit peu. Donc on a à peu près tout le monde sur un mois. Hein, maintenant je peux le dire parce que j'ai passé assez de mois avec vous pour le voir. Et puis c'est correct comme ça, parce que finalement il y en a qui font beaucoup de cultes dans une journée. Ben, nous on fait quatre cultes sur un mois, quoi. Hein, puis on a tout le monde. C'est correct. Non mais je vous encourage. À être là, mais voilà, je suis tellement bon avec vous que je me suis dit je vais repasser cette vidéo, quoi. Hein? C'est cool. Alors, c'est une petite vidéo qui présente assez bien ce qu'on avait envie de vivre. Elle parle par elle-même, et puis je reprendrai peut-être juste quelques éléments. Thank you. Voilà. Alors, je crois que c'est une histoire d'une question d'équilibre. Ce qu'on vit le matin, ici, le dimanche matin, est important. C'est important de vivre la communion fraternelle, c'est important d'être équipé, mais pour aller. Et ça ne peut pas, si on vit que ça, que ce qu'on vit le dimanche matin, puis qu'il n'y a rien qui se passe à l'extérieur, alors je crois qu'on est à côté de ce que Jésus nous a enseigné, faire des disciples. On voit, c'est vraiment semer l'amour, libérer, guider, etc. Alors nous avons vu les semaines précédentes, moi et ma maison, c'est faire de ma maison une montagne des oliviers, avec Jean-Jacques, il y avait 6 points qui étaient très concrets, qui ont été plus ou moins, je dirais, développés dans les messages suivants. 28 du 1, on avait vu faire de ma maison un lieu de réveil. Et puis, la semaine dernière et aujourd'hui, on va parler de faire de ma maison un lieu de discipulat. Et puis, la semaine prochaine, Jean-Jacques conclura cette série. Mais avant en fait, d'entrer dans le thème, j'aimerais donc qu'on puisse écouter quelques témoignages. Donc, comme je l'ai dit, l'idée n'est pas de vous dire qu'est-ce que vous devez faire, mais c'est simplement que nos cœurs puissent s'ouvrir à l'œuvre de Dieu. Donc, j'aimerais inviter premièrement Eric et Marie. Je ne sais pas si vous venez les deux. Donc, je leur ai donné 5 minutes, d'accord? Hein? Ah ouais, je le connais Eric maintenant. Mais 5 minutes, hein? Viens là-haut au centre. Et puis, voilà, eux, ben, ils vont vous expliquer, quoi. Mais je crois qu'ils ont reçu un appel spécifique, un appel qui est pour eux. Et voilà ce qu'ils vivent un petit peu dans leur maison, qu'ils vont vous expliquer maintenant. Puis Eric, il a tout un témoignage, c'est pour ça que je dis qu'il doit faire 5 minutes, parce qu'on aura l'occasion de l'entendre une fois son témoignage au complet. Merci.
Très bien, merci à vous. Bonjour mes frères, mes sœurs, amis. Eric, Marie Duflo, nous sommes français et très heureux d'être partagés la plupart des dimanches avec vous depuis un an maintenant. Merci Pasteur Luc. J'ai cru qu'il m'avait noté 50 minutes, non? C'était 5 minutes? J'ai mal compris. C'est vrai que si on doit commencer à témoigner ce que le Seigneur a fait dans notre vie, 50 minutes même ne suffirait pas, tellement il est bon avec nous. Il y a à peu près 3 ans, j'ai eu cet appel donc de faire quelque chose sur Pontarlier. Nous habitons à côté de Pontarlier. Nous fréquentions à ce moment-là donc les assemblées de Dieu en France. Et cet appel était de... Le Seigneur m'avait parlé dans un songe et autres, comme quoi, puis c'était assez récurrent, comme quoi nous devons faire quelque chose sur Pontarlier. Et moi, en tant qu'un bon Gédéon qui se respecte, il m'a fallu quand même plusieurs confirmations pour pouvoir ouvrir quelque chose. Donc ça fait il y a 3 ans et je n'ai ouvert quelque chose. On a ouvert un ministère simplement 1 an et demi après. Donc pour vous dire qu'il a vraiment fallu, parce que c'est pas facile, bien évidemment, de se dire le Seigneur m'a parlé, je crois qu'il veut quelque chose de moi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que on va pas faire n'importe quoi? Parce que lorsqu'on veut servir le Seigneur, on a envie de le faire bien et le mieux possible. Avec tout notre cœur, pas par orgueil bien évidemment, mais avec notre cœur. Et cet appel de Dieu, il ne fallait surtout pas se tromper. Donc comme bon Gédéon, comme vous connaissez l'histoire de Gédéon, il a fallu vraiment des confirmations permanentes. On a ouvert donc un ministère, parce que quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez l'acte des apôtres, il nous dit qu'il faut bien évidemment faire des disciples, il faut répandre la parole de Dieu aux 4 coins de la terre, il faut... guérir les malades, il faut chasser les démons. On n'a pas grand chose à faire, mais on a au moins ces 4 commandements que Jésus nous donne à faire. Et moi, ça m'a vraiment percuté. Et quelque part, on a voulu répondre à cet appel en ouvrant notre maison, en faisant chez nous le mont des Oliviers, en respectant l'acte des apôtres, comme c'est écrit dans la parole. Et on a ouvert notre maison à des personnes. Alors c'était un petit peu sous quelle forme, comment nous allions faire. C'était un peu compliqué, on était 2. Donc c'était, pour ouvrir sa maison, ce n'était pas trop dur, puisqu'à 2, c'est jamais trop dur, puisqu'on vit dedans. Mais d'ouvrir sa maison à des gens qu'on ne connaît pas, voilà, il fallait aussi une grande confiance en Dieu. Et bon, on a laissé ça entre ses mains et on a ouvert cette maison. On s'est très vite retrouvés à 11, donc ça a été très très vite. Dans ces 11, il y avait 5 personnes qui connaissaient pas du tout Dieu, qui s'approchaient de Dieu, et par rapport à des séances tous les samedis, des séances de se rencontrer, comme il est dit dans le psaume 133, qu'il est agréable et doux entre frères de se retrouver ensemble, de demeurer ensemble, eh bien, on trouvait agréable à chaque fois de se réunir et de se rencontrer le samedi. Bien évidemment, comme le pasteur y dit, ce n'est pas le but de faire tous pareil. Il n'y a aucune obligation à faire quoi que ce soit. Il faut simplement, moi je pense, c'est toujours agréable de se retrouver entre nous. Le but n'est pas non plus de faire de la concurrence à l'église locale, mais dans l'église primitive, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils se retrouvaient entre frères et sœurs chez eux pour prier, pour partager, pour donner des témoignages, pour faire un parcours autour de la parole de Dieu, faire des études bibliques. Eh bien, nous, c'est ce qu'on fait. Et on donne aussi cet enseignement. Et on a pu faire encore 5 baptêmes cette année parce que des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui s'approchent de Dieu, qui sentent cet amour fraternel et qui n'ont pas forcément connu une église locale, ou même des gens qui ont connu une église locale mais qui sont aussi partis pour X raisons, eh bien, il faut savoir aussi qu'il y a une église à l'extérieur, et qui ont besoin aussi de cette parole de Dieu. Eh bien, nous, on s'est engagés à servir le Seigneur dans ce sens et d'apporter cette parole de Dieu au sein de notre domicile, où on accueille des gens. On se retrouve à 8, on se retrouve à 4, on se retrouve à 11, on peut se retrouver à 15, c'est pas grave. Il y a de la place, en plus il y a toujours des bons gâteaux, donc c'est excellent. Comme vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui crache sur la nourriture. Donc voilà, c'est toujours agréable de se retrouver, on est entre nous, il y a plein d'amour, on fête les anniversaires et autres, et c'est complètement indépendant de ce qu'on peut vivre le dimanche ici. C'est vraiment un complément, comme le pasteur y dit, le but c'est pas de concurrencer l'église locale, c'est simplement... Bah, un jour, un matin, un dimanche matin par semaine, on a trouvé aussi peut-être que c'était un peu juste et qu'on avait besoin d'un peu plus. Et on avait donné 2 heures à 17, de 14h à 17h pour se réunir. Et souvent, ça va plus loin. On est obligé presque de virer les gens de chez nous parce que, alors c'est un grand mot, virer, c'est entre guillemets, bien évidemment, mais ça peut aller comme hier jusqu'à 9h30 du soir parce qu'on est bien ensemble. Ça nous fait plaisir d'être ensemble. On parle de Dieu. On a un discours, le même discours, chacun. Et c'est agréable de servir Dieu dans ces conditions. Et c'est autre chose que... on se voit dimanche, c'est super, on est bien, on est content, on se voit, on se fait des gros bisous, c'est bien. Mais il y a encore plus de chaleur lorsqu'on arrive encore à amener cette communion fraternelle au sein de son domicile. Je vais laisser Marie discuter, parce que si on me laisse le micro, c'est plus 5 minutes, c'est 15 minutes. Et donc, je vais laisser Marie, parce que derrière tout ça, comme ça a été dit dans les différents cultes ces dimanches, il y a aussi beaucoup de bénédictions au sein de notre famille, au sein de nos enfants, au sein des gens qui viennent chez nous. Et vraiment, on sent la main du Seigneur. Elle est posée sur les gens qui viennent avec un cœur fidèle et sincère au sein des réunions, au sein de cet amour fraternel qu'on partage ensemble. Et je vous exhorte vraiment à ressentir vraiment tout cet amour qu'on ressent aussi. Je sais que vous le faites, mais n'hésitez pas, c'est sans calcul. Le Seigneur, il nous aime d'un amour inconditionnel. Eh bien, nous, on est aussi sans condition pour lui, on y va. Il faut donner. Je vous remercie.
Bonjour, frères et sœurs. Je pense qu'il a dit le principal. Moi, je vais intervenir en tant qu'épouse. Et puis, j'ai été aussi... quand le Seigneur fait quelque chose dans un couple, il parle souvent aux deux personnes. Donc, c'est vrai que moi, je suis toujours un peu sceptique. Des fois, j'ai des doutes ou peut-être par manque de confiance. Et en fait, le Seigneur, un jour, je lui ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Dis-nous, enfin, être spectateur, c'est bien, mais être acteur, c'est mieux. Dis-nous, montre-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Et c'est vrai que des fois, il n'y a pas besoin de courir de long en large, mais c'est vrai que s'ouvrir aux autres, ça fait partie, je pense, de notre mission, celle que Jésus, il a voulu pour nous. Et c'est vrai que, en complément de ce qu'on fait chez nous, dans notre maison, on accueille des gens, bien évidemment, qui connaissent des fois pas du tout le Seigneur. On peut les accompagner, on peut les amener, comme on a fait cette année, vraiment les amener jusqu'au baptême, c'est-à-dire à devenir disciples aussi. Et puis, on a aussi des petites sorties extérieures où on va aussi faire... Alors, on fait souvent, nous, on a l'habitude des câlins gratuits, des free hugs. Alors, c'est un petit complément qu'on fait aussi à l'extérieur. Ça nous permet, en fait, de pouvoir approcher les gens avec douceur et avec amour. Et pas leur sauter dessus, forcément, en leur criant « Repens-toi » ou... Non, c'est vraiment de l'amour qu'on veut donner autour de nous. Ça nous permet de pouvoir leur laisser un évangile. Et puis, dans mon cœur, je me dis toujours, suffit d'une personne qui soit touchée par cette écriture, par cette parole, par cet évangile. Voilà, donc ça fait partie aussi de ce qu'on fait chez nous. Et puis c'est merveilleux parce que on se rend compte que vraiment on n'est pas tout seul quoi. Des fois je me dis mais c'est incroyable comment Dieu des fois peut conduire les choses. On sent vraiment son amour, son appui. Et puis on m'a toujours dit ce qui compte c'est on le fait vraiment dans l'humilité, pas pour nous-mêmes parce que nous on a déjà ce qu'il faut avec le Seigneur, il nous donne tout ce qu'on a besoin, il pourvoit en tout. Mais c'est vrai qu'on est des ouvriers. Et moi, j'ai compris dès le début qu'on a tous une mission. Peu importe, après, chacun, une fois qu'on est disciple, chacun a son appel, chacun a son plan. Certains seront évangélistes, d'autres pasteurs, d'autres, d'autres vont s'occuper de l'école du dimanche. Chacun a les choses de prévues pour soi. Nous, le but, c'est pas de dire à chacun « il faut faire ci ou il faut faire ça ». C'est très libre. Parce qu'on a la liberté en Christ. Et ça, c'est vraiment pour nous très motivant. C'est bénéfique, parce que c'est vrai, comme disait Eric tout à l'heure, on a beaucoup de bénédictions dans nos vies, que ce soit dans tous les domaines. Vraiment, Dieu est fidèle en toutes choses. Voilà. Et merci à Luc d'avoir qu'on ait pu témoigner.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Un, deux. Je sais plus où j'en suis avec le micro. C'est bon, ça marche ? Un, deux, oui, ça marche. Super, merci pour votre témoignage. Donc voilà, une maison qui s'est ouverte, c'est surtout ça qui est beau de voir. Donc des plusieurs personnes tous les samedis qui viennent être enseignées. Voilà, c'est l'appel qu'ils ont reçu, ils vont dans la rue, ils amènent ces gens chez eux avec amour. Et puis c'est une manière d'ouvrir sa maison et de le vivre. Une autre manière de le vivre, c'est Philippe et Anne-Claude qui vont nous le partager. Je ne sais pas si c'est les deux, vous pouvez venir. J'essaie de crocher mon truc, là. C'est bon.
Alors bonjour. Nous, on avait envie de partager que depuis qu'on est jeunes mariés, on a l'accueil qui nous tient à cœur. Même la première semaine qu'on était autour de nos, on a fini le tour de nos à 10 parce qu'on avait la chance d'avoir un chalet. Puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire tout seul? Il faut inviter les gens. Donc voilà. Et puis, on a eu à cœur de faire une formation S2V, une formation étoile, qui ça permet d'expliquer aux filles qui sont enceintes. Et puis que ce n'était pas désiré, qu'est-ce qu'elle peut faire avec cet enfant? Soit le garder, soit le donner à l'adoption, soit l'avorter. Mais l'aider dans le choix qu'elle fera. Et puis on s'est dit, mais si ces filles, elles gardent ces enfants, qui c'est qui va les accompagner? Qui c'est qui va les accueillir si elles sont rejetées de leur famille et tout? Et puis on était plusieurs dans le même cas, avec cette pensée, mais il faut vraiment pouvoir accueillir toutes ces filles. Et puis le Seigneur, il a aussi permis qu'on fasse la rencontre d'autres familles, d'autres dames qui avaient ça à cœur. Puis on s'est dit, comment est-ce qu'on va concrétiser cet appel, ce qu'on a toutes sur nos cœurs, d'accueillir ces dames, ces filles, ces futures mamans, ces mamans fatiguées. Et puis on s'est dit, on va faire une association. Alors il y a une année, c'était au mois de février l'année passée, après 2 ans de travail, on a créé MAMAC. J'ai quelques flyers là, tu peux les prendre. Et puis c'est Lucille de l'église qui nous a fait les petits flyers. On a fait un site internet, on a fait un Facebook. Et puis on a vraiment à cœur qu'elle puisse venir dans nos maisons. On est 5 familles. Et puis ce qui est chouette, c'est que on crie pas, c'est pas écrit Jésus, Dieu partout sur le flyer et sur le site, mais chaque fois on remet ces moments au Seigneur et puis il y a des portes qui s'ouvrent et là chaque fois on peut leur parler de Jésus, on peut les accompagner, on fait des belles rencontres, on a des bons moments de partage, c'est vraiment juste magnifique ce qu'on peut partager ensemble. Ce jeudi, enfin ce mercredi, il y a Madeleine qui est arrivée chez nous pour normalement juste 2 jours. Et puis elle a dit, ah, il fait tellement bon chez vous, on peut bien se reposer. J'ai dit, mais Philippe lui a dit, mais si tu veux, tu peux rester encore un peu. Donc du coup, elle est restée jusqu'à aujourd'hui, puis ce matin, elle est avec nous à l'église. Et puis je trouve c'est beau parce qu'on a pu prier pour elle. C'est chaque fois pour moi une joie de pouvoir dire ce que je vis avec Dieu, de pouvoir dire qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies, de pouvoir encourager ces personnes. C'est, voilà, c'est riche.
Enfin, je veux dire que l'amour que Dieu nous a donné, je trouve que c'est tellement normal qu'on doive le redonner aux autres parce qu'on a rien choisi qui nous aime. Il nous aime tellement fort que ça fait tellement du bien de pouvoir donner en retour une infime partie de ce que lui a donné pour nous. On a aussi organisé d'autres choses, c'est qu'on fait des concerts salons. Et puis ça, on invite les gens du village, et puis en fait, on invite des gens qui sont dans la chanson. Et le dernier qu'on a fait, c'est avec Philippe de Courroux. Donc, il est venu chanter dans le salon. Et c'était super parce qu'Anne-Claude avait vraiment une personne sur le cœur, c'est un pote à moi du village, on se voit toujours à l'apéro, à la déchetterie. Bon, il n'y a plus de déchetterie maintenant. Bon, mais franchement, c'est un gars qui est super, puis ce qui est encore mieux, c'est qu'il est révolté contre Dieu. Et ma femme, elle me dit, t'as pensé à tel et tel, je ne vais pas donner de nom. Et puis, oui, j'ai pensé, mais j'ai zappé complètement de l'appeler. Et je l'ai téléphoné, puis il m'a dit, écoute, oui, alors pour la raclette, je viens. Mais Dieu, tu sais ce que j'en pense. Je dis, mais il n'y a pas de souci, viens au moins pour la raclette. Puis de toute façon, j'ai déjà pris mon médicament parce qu'il est très malade. Il a une infection avec l'encre des billets de banque, vous savez. Et il a failli mourir, il était 2 ans entre la vie et la mort. Et il me dit, écoute, j'ai déjà pris mon médicament, donc de toute façon, depuis 9 heures, je vais dormir. Pas de souci, il est arrivé pour le souper. Et c'était juste énorme, en fait, parce que le gars, il est parti à 3 heures du matin. Il a dit, purée, Dieu, c'est le premier miracle qu'il a fait dans ma vie, j'ai pas dormi. Et il était captivé par le concert de Philippe. Ils ont échangé des trucs. Et moi, je trouve que c'est ça qui est extraordinaire aussi. Voilà. C'est ce qu'on a à cœur aussi, les gens du village.
Merci beaucoup. 1, 2. Alors, on regarde un dernier témoignage vidéo, cette fois, d'une femme, d'une mère de famille, qui nous parle de l'hospitalité. Et j'ai trouvé ce témoignage intéressant. Alors peut-être la forme va me plaire à certains, d'autres peut-être moins à d'autres, peu importe. Mais écoutez juste ce qu'elle a à nous dire.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chez moi et c'est mon fils qui nous filme. Donc j'espère que vous ne verrez pas trop son doigt sur la caméra. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'hospitalité. Alors c'est un sujet, d'ailleurs hospitalité, ça fait déjà un petit peu vieux jeu, un peu moyenâgeux même. On a oublié ce que c'est. Et pourtant dans Hébreux 13, c'est écrit « Persévérez dans l'amour fraternel », c'est ce qui précède le fameux verset. Puis au verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Interpellant « loger des anges », qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on ne va pas parler des anges aujourd'hui, mais de l'hospitalité. Et puis moi, j'aimerais vous encourager au fait d'ouvrir votre maison, d'accueillir ceux qui n'ont pas de famille, par exemple, ou alors des familles seules, parce que des fois, on a une mauvaise perception des personnes qui sont seules. Parce qu'on peut être en famille, on peut être en couple, et puis on peut être seul. Et pourtant, on a été créé pour les relations, on a été créé pour être aimé et pour aimer. Donc on peut être nourrir que dans les relations. Et donc nous, on est une grande famille avec mon mari. On a 6 garçons de 6 à 16 ans. Et puis, on pourrait très bien se satisfaire dans notre famille. On est déjà à 8. C'est déjà pas mal. Et pourtant, Dieu nous appelle et nous invite à toujours élargir nos bras et à accueillir d'autres personnes, d'accueillir des célibataires, d'accueillir d'autres enfants. d'accueillir des personnes âgées ou d'aller voir des personnes âgées. Parce qu'en fait, Dieu, il a créé en notre famille un contexte favorable pour partager la famille et puis pour libérer cette atmosphère de famille dont on a tous besoin. Qu'on soit célibataire ou pas, on a tous besoin d'une atmosphère de famille où on se sent accueilli, où on se sent aimé. Donc, juste un petit détail. C'est très important de bien faire comprendre à nos enfants qu'ils sont prioritaires par rapport à toutes ces personnes qu'on pourrait accueillir. Ça veut dire qu'on va leur demander s'ils sont d'accord d'accueillir un tel ou un tel. On va leur demander si, des fois, ils sont d'accord de laisser leur lit pour accueillir quelqu'un. Mais on ne va jamais imposer l'accueil aux enfants en leur faisant comprendre qu'ils sont toujours prioritaires et qu'ils sont la famille et qu'ensemble, on va accueillir d'autres. Cette capacité d'accueil ou d'accueillir l'autre, elle commence déjà quand on se marie. Quand on fait alliance avec sa femme ou son mari, on accueille l'autre, on accueille la différence. Ça, c'est déjà une extension. Et puis après, on accueille le premier enfant qui vient bouleverser l'équilibre qu'on avait construit. Et en fait, notre capacité d'accueil, elle est toujours appelée à s'élargir et à s'étendre. Donc on a un enfant, puis après on se demande comment on va faire avec deux, puis après avec trois, et quatre, et cinq, et six. Et puis après, on se dit, c'est fini, c'est bon, on va souffler. Notre capacité d'accueil a atteint son maximum. Et ben non, en fait, elle va toujours s'étendre parce qu'après, il y a les copains, les copines, les conjoints de nos enfants, et puis il y a les petits-enfants. Et puis, en fait, on se rend compte que notre capacité d'accueil peut s'élargir à l'infini et qu'elle est toujours challengée. Donc, on accueille des enfants de sang qui sont pas forcément des gens qu'on connaît, enfin, pas forcément des gens qui nous ressemblent. Et puis, on peut être aussi appelé à adopter d'autres enfants. Donc, je vous disais que la capacité d'adoption, elle ne se limite pas juste à un enfant de Chine, d'Afrique qu'on adopte, mais on adopte nos beaux enfants, on adopte nos belles-mères, nos beaux-pères. On adopte beaucoup de personnes, en fait, dans notre vie. Et c'est important parce que, par exemple, des enfants qui ont des familles dysfonctionnelles et qui peuvent vivre un petit peu dans des familles qui fonctionnent bien, ça va leur donner l'espérance que c'est possible, même si ça l'a pas été dans leur propre famille. Donc, si vous êtes un couple qui fonctionne, même pas forcément parfaitement, mais qui fonctionne, vous êtes une espérance dans cette génération. Rien qu'en vous voyant, les gens espèrent que, oui, le couple, ça peut fonctionner. Donc, je vous encourage à exercer l'hospitalité, à ne pas vous inquiéter si votre maison est rangée, pas rangée, pas vous inquiéter si vous n'avez pas un repas gastronomique à proposer. Moi, je n'ai jamais de repas gastronomique à proposer. Par contre, j'ai toujours à proposer de l'amitié, des pâtes vite réchauffées, des petites sauces de tomates en boîte qui sont bien stockées là où il faut. On peut toujours commander des pizzas, des falafels, plein de choses. Donc, exercez l'hospitalité. Élargissez vos bras pour accueillir et puis vous verrez tous les trésors que ça engendre et justement des trésors comme des anges. Ça veut dire que parfois on va exercer l'hospitalité avec des gens qu'on ne connaît pas parce qu'en général les gens qu'on connaît c'est pas des anges, ce qu'on a vu plusieurs fois. Voilà, passe une super belle journée, sois béni, guéri aussi dans ton corps, dans ton âme et puis à tout bientôt et n'oublie pas que Jésus t'aime d'un amour extraordinaire. Bye bye. I went away to wait for the winds in a world of
trouble and sin. Yes, ben j'espère que ces témoignages vous ont encouragé, ça va? Ok, super. J'aimerais encore continuer avec deux, trois pistes pratiques rappelées la semaine dernière. Il y aura aussi un petit message, hein, vous inquiétez pas, mais il n'y a pas la Sainte-Seine aujourd'hui. Hein, tout va bien, on a tout prévu. La semaine dernière, j'ai proposé un WhatsApp family, spécial famille, pour que vous soyez encouragés dans votre semaine avec un verset biblique et puis que vous pourrez partager avec vos enfants, le mettre en pratique, qu'on puisse communiquer là autour et puis aussi que vous puissiez donner un sujet de prière si vous avez besoin, un de vos enfants a besoin de prière, que vous puissiez simplement le dire. Donc, WhatsApp Family, vous pouvez vous inscrire, il y a une liste à la sortie, et puis ça commencera dès ce soir. Ensuite, j'aurais souhaité avoir un témoignage de l'équipe qui est en train de vivre dans leur maison, dans leur groupe de maison, un cours alpha. J'ai encouragé ça l'année passée déjà. Et puis, j'aimerais vous encourager à y songer. Donc, à tout moment, finalement, vous pouvez ouvrir votre maison et puis dire, on aimerait vivre un cours alpha dans notre maison. Il n'y a pas besoin d'être forcément un groupe de maison établi pour le vivre. Mais s'il y a quelques personnes qui désirent le vivre, alors on va faire un groupe que pour ça. On va créer le groupe pour le cours alpha, puis le groupe ensuite, la suite, on ne sait pas comment ça va se vivre. Mais c'est possible de juste aspirer à ça, puis dire que ce soit 2018, 2019, on a ce projet de vivre un cours alpha dans notre maison. Donc j'ai aussi mis une liste, comme ça, tout au long de l'année, si d'un coup ça vous vient dans votre cœur, vous pouvez le faire. Ce n'est pas une action qui commence à un moment, ça reste tout le temps. On a d'ailleurs aussi le projet de le vivre dans notre maison. Mais des fois, on pense déjà à des personnes, on a des relations qui s'établissent, puis il y a aussi un temps de Dieu. Donc il faut peut-être commencer si vos voisins disent « j'ai bien invité mes voisins, mais ils ne savent pas que je suis chrétien », commencez à établir la relation, parce qu'autrement, ça risque d'être un petit peu abrupt quand même. N'est-ce pas? Ok. Et puis, une troisième piste concrète que j'aimerais vous présenter, c'est pas moi qui vais vous la présenter, c'est Anne-Joël qui a proposé une idée très concrète qui, je trouve, va très bien dans l'idée d'ouvrir sa maison. Anne-Joël, tu peux venir et puis nous expliquer ça. Les slides sont à la suite. Merci Anne-Joël. Ça va venir, ça va venir.
Ça va venir.
T'as vu?
I love LA. C'est Luc et Acte, en fait. En binôme, pourquoi pas? Il s'agit en fait d'une action toute concrète d'approfondir avec quelqu'un, un ami, une personne non chrétienne, non encore chrétienne, en famille, dans une cellule de maison, en 5 semaines, l'évangile de Luc. Il y a 5 séries de 5 passages. Là, c'est la première série, comment tout a commencé. Donc, c'est divisé en petits chapitres. Enfin, le premier, c'est 4 versets, puis après, c'est une dizaine de versets. Chacun le lit, donc on est en binôme ou alors en famille, chacun le lit pour soi, et puis après, on se retrouve pour discuter. Il y a un canevas pour aider, pour discuter sur ces passages-là. Les points difficiles qu'on peut soulever, les points qui touchent au cœur, et on avance comme ça dans la découverte donc de Luc, qui est l'exposition de la vie de Jésus, et ensuite des actes, qui est l'explication de l'Église. Donc je le fais très rapidement. Donc certains ont bien envie de participer, mais ils savent pas à qui penser pour être accompagnés ou pour accompagner. Comme Luc vient de le dire, on peut penser à quelqu'un, prier au sujet d'une personne à qui on peut proposer ce temps, donc en famille, en cellule, entre amis. Je ne vais pas faire plus long, si vous voulez, on peut en discuter, je serai au fond de l'église tout à l'heure.
J'ai un mauvais réflexe. Je ne veux pas que vous m'entendiez faire comme ça, c'est pour ça. Voilà, donc une proposition concrète pour lire la parole, approfondir la parole, ensemble, à plusieurs, dans un groupe de maison, en famille. Donc vous pouvez aller vers Anne-Joël ou bien aussi vous inscrire sur une liste sur le panneau d'affichage. Voilà, j'espère que toutes vos propositions ne vous font pas trop peur. L'idée, ce n'est pas que vous deviez vous inscrire partout. C'est juste de vous donner des pistes concrètes. Parce que je réalise, et vous le réalisez aussi, que parler, c'est bien, mais agir, c'est autre chose. Et l'idée dans cette série, c'était vraiment de vous donner des outils, des pistes pour dire comment on peut ouvrir notre maison. Et j'espère que nous l'avons plus ou moins bien fait. Voilà. Mais je suis donc très conscient que pour beaucoup, tout ce que vous avez entendu ces dernières semaines, c'est défiant. Et puis peut-être que encore plusieurs se disent, mais comment pourrais-je ouvrir ma maison dans ma situation? Comment pourrais-je, avec l'état de ma vie, comment pourrais-je, avec l'état de ma famille? Je suis aussi bien conscient que beaucoup voilà, vivent des fois avec un conjoint qui n'est pas croyant. Il y a des familles où c'est difficile à la maison, etc. Il y a des personnes qui vivent seules, qui disent, mais est-ce que je peux vivre ces choses aussi? Et j'aimerais juste vous rappeler que Jésus n'a pas choisi des gens parfaits, très important. Il n'a pas choisi des enseignants, des théologiens, il aurait pu trouver des gens très instruits pour faire la mission. Mais il a choisi des gens du peuple, des gens avec peu de connaissances. Et puis dans le livre des Actes, juste après la Pentecôte, vous vous souvenez, l'effervescence qu'il y a après la Pentecôte, il y a une effervescence autour des apôtres, il y a eu des guérisons, des miracles, les gens sont vraiment touchés. Et puis, à un moment donné, ça fait tellement de foin, on peut dire, que Pierre et Jean vont devoir comparaître devant les chefs du peuple, donc les anciens, les spécialistes de la loi. Et puis, il est dit quelque chose d'assez fou. Il est dit en Actes 4, 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Et si on traduit littéralement, on peut dire qu'ils ont été étonnés car ils savaient que c'était des idiotesses, c'est-à-dire des idiots. Le terme grec a donné le mot « idiot » en français, vous vous rendez compte? C'est des hommes du peuple, un peu des idiots, quoi, des sans instruction. Et puis ils sont surpris, étonnés de voir leur éloquence. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu avec Jésus. Parce qu'ils ont été remplis par le Saint-Esprit. Donc, quelle que soit notre situation, eh ben, on ne se sent jamais à la hauteur. Jamais. On n'est jamais à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur pour être devant vous ce matin. Mais le fait d'être avec Jésus et puis d'avoir l'Esprit en nous, alors ça fait la différence. Et je suis convaincu que Dieu peut vous utiliser alors que vous choisissez de lui faire confiance et d'être disponible. Et tant que tu te vois incapable, alors l'ennemi va profiter, puis il ne va pas t'empêcher de croire le contraire. Il va dire, c'est très bien, crois que tu es incapable. Il ne va pas te dire quoi que ce soit. Mais est-ce que lui, il a le droit sur ta vie? Est-ce que c'est lui qui doit te dire ça? Non, c'est Dieu qui te connaît. C'est à Dieu qu'il faut que tu fasses confiance. Et si tu choisis que l'Esprit de Dieu, alors visite ta maison, et si tu as fait des démarches dans cette série, tu as dit, mais moi j'aimerais ouvrir ma maison, eh ben, si tu as pu lui dire, ok, il va amener les bonnes personnes, il va te donner ce dont tu as besoin, comme on l'a entendu. Il y avait des peurs, il y avait des doutes, mais Dieu a pourvu. Et peut-être que donc ta réalité familiale est difficile, que la perspective de faire une montagne des oliviers, comme on a dit, ouf là là, une montagne des oliviers, ma maison s'en est bien, bien loin. Eh bien, peut-être que tu auras juste l'occasion d'inviter une ou deux personnes pour prier dans ta maison pendant que c'est calme. Quand j'en parle à ma femme, elle a dit, c'est quand que c'est calme? Mais peut-être que tu as des enfants qui sont à l'école. Peut-être que tu es à la maison, tu as un jour de congé et puis que ton mari travaille. Peut-être c'est juste l'occasion d'inviter une ou deux personnes pour prier dans ta maison. Puis peut-être que c'est dans ta situation, c'est toi qui as besoin d'aller dans la maison de quelqu'un d'autre pour être encouragé, pour être vraiment soutenu dans ce que tu vis. Mais j'aimerais te dire que même si aujourd'hui, ta famille, tu dis, ben, je ne peux pas ouvrir ma maison. Si tu dis ça, tu fais ce constat-là, juste de dire, mais lâche pas. Ta vie de famille est ta maison. Continue à prier dans le sens, avec cette ouverture de cœur, pour que l'Esprit puisse agir. Et puis si tu es célibataire, moi je t'encourage à ne pas attendre ton futur conjoint que tu espères pour vivre ces choses. Parce que des fois, il y a comme une attente, dit, ben, une fois que, on pourra le vivre. Mais n'attends pas, parce que je crois que Jésus aimerait te toucher, aimerait vivre quelque chose et faire quelque chose avec toi déjà. Et moi, je me souviens d'une expérience forte, d'une invitation qui nous a vraiment marqué, ma femme et moi. C'était un jeune gars qui était autiste, en fait, puis que j'avais connu pendant l'adolescence. Et puis ce gars, il avait grandi, il avait réussi quand même à vivre tout seul, indépendamment de ses parents, avec des certaines routines. Hein, il y avait des checklists un peu à droite et à gauche. Puis ce gars, je l'avais perdu de vue, et c'est lui qui m'a retrouvé des années plus tard. Donc je le connaissais ado, il m'a retrouvé, il me téléphone, on était juste jeunes mariés, et puis il nous invite chez lui. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a vécu ce soir-là. Ce gars qui vit une toute autre réalité, eh ben, il nous a invités, il a fait des pâtes, il était fier d'ouvrir sa maison, de nous servir, à nous qui étions un jeune couple amoureux avec des projets plein les yeux, loin de sa réalité à lui. Ben, je peux vous dire qu'il a ouvert sa maison et il nous a tellement touchés et bénis. Et au travers de lui, on a vu l'amour de Dieu. C'était fort. Donc Dieu désire œuvrer en nous, avec nous, et pourquoi pas utiliser nos maisons, nos foyers, pour qu'on soit des points de repère pour beaucoup dans cette région. Donc j'aimerais poursuivre sur le thème du discipulat, avec une dernière dimension qui me semble très basique, mais fondamentale. C'est peut-être un synonyme, enfin fondamental, basique, mais important, vous l'aurez compris. Donc nous avions vu que le discipulat, c'est investir dans la vie d'une personne afin de l'aider à grandir en maturité, de l'enseigner, de l'accompagner, de l'amener à une vie de disciple, de pouvoir l'envoyer et multiplier, pardon pour la faute de frappe. Et puis j'avais donc résumé en deux mots et demi, puis je tiens beaucoup au demi, des relations authentiques, un enseignement par l'exemple. Donc ça, c'est ce que nous avions déjà vu. L'apôtre Paul, que l'on peut considérer un peu comme spécialiste de la branche, il a dit à plusieurs reprises dans des termes différents, il a dit « imitez-moi », enseignement par l'exemple, il dit « imitez-moi ». En Corinthiens 4, 16, nous dit, « Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs ». Alors, c'est vrai, quand on lit ça, encore une fois, on se dit « mais Paul devait vraiment être parfait ». On est bien loin d'oser dire à quelqu'un « imite-moi ». Je ne sais pas vous, hein, mais est-ce que dans tous les jours, à votre frère et soeur, à droite ou à gauche, vous dites « Hé, imite-moi hein. Hey, je vous exhorte, mes amis, faites comme moi !» Alors c'est pour ça que quand on te dit « enseigner par l'exemple », ben ça nous fait peur, et puis ça met comme une certaine pression, ça veut dire ben, « il faut que je sois parfait, vraiment qu'il n'y ait aucun reproche, et puis que j'aimerais casser ça ce matin. » Je crois vraiment que Paul n'était pas parfait, mais il avait choisi, lui, d'imiter Christ. Il avait choisi de conduire les gens à Christ. Et est-ce que lui se disait, en disant ça, « imitez-moi », est-ce qu'il se disait « ben, j'aimerais qu'ils imitent aussi mes erreurs ?» Non, bien sûr, certainement pas. Mais en fait, du mieux qu'il pouvait, il souhaitait être témoin du Christ. Puis il désirait que l'exemple de sa vie conduise à Jésus. Sans pression, avec qui il était, mais avec ce désir de suivre Jésus au plus près. Vous connaissez bien sûr ce récit, j'en ai déjà fait mention une fois, de ces quatre hommes qui amènent un paralytique devant Jésus par le toit de la maison. Et ben, à quelque part, tout comme Paul, d'une manière toute pratique, ils étaient déterminés à amener leur ami proche de Jésus. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils pourraient nous dire ce matin, imitez-nous, imitez-nous. Ils se sont investis pour ce gars, ils l'ont porté, ils n'ont pas regardaient à leurs propres besoins, puis ils l'ont conduit à Jésus. Et j'ai envie de vous dire ce matin, comme dernier point dans ce thème du discipulat, ben, le discipulat, c'est ça. Le discipulat, c'est montrer qui est Jésus. C'est amener les gens à Jésus. Et c'est un point fondamental. C'est pas faire, mais c'est amener les gens à Jésus. Alors on a vu ce matin différentes manières d'ouvrir notre maison, on a entendu qu'il y a des appels plus spécifiques pour les uns ou les autres, mais que ce soit par un temps de discussion autour d'un café ou dans une relation de discipulat, notre rôle c'est d'amener les gens à Jésus. Parce que c'est lui qui sauve. Vous ne pouvez pas sauver, vous êtes d'accord? C'est lui, c'est Jésus qui sauve. C'est l'Esprit qui agit, c'est l'Esprit qui convainc. Des fois on aimerait bien convaincre les gens, des fois on parle aux gens, mais purée, mais pourquoi? Il n'y a rien qui se passe. Mais ce n'est pas nous. On peut parler du mieux qu'on peut. Mais à un moment donné, c'est l'Esprit qui va convaincre. C'est l'Esprit aussi qui relève. C'est l'Esprit qui console. On peut offrir le climat d'accueil. Mais celui qui console, c'est l'Esprit Saint. Des fois, on est bien maladroit. Puis je ne sais pas si vous avez réalisé que des fois, quand les gens sont mal, hein, eh ben, on s'éloigne. Parce qu'on est tellement maladroit qu'on ne sait pas quoi faire. C'est l'esprit qui console. On peut juste offrir le contexte. Alors c'est une bonne nouvelle. Parce que ça devrait enlever une certaine pression de nos épaules. Okay, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Alors une image a toujours ses limites, mais j'avais cette image pour nous, que vraiment qu'au travers de nous, comme au travers d'une paire de jumelles, les personnes qui nous accompagnent ou qu'on va accompagner, eh ben, elles puissent mieux voir Jésus. Peut-être que les gens que vous allez recevoir chez vous, ils ont une vision de Jésus qui est un Dieu lointain, qui est flou. En fait, ils entendent parler de Jésus, mais ils ne savent pas vraiment qui est Dieu. Ils ont tellement d'a priori, ils ont tellement d'histoires de vie, qu'ils ont toujours des filtres qui font qu'ils ne connaissent pas le Jésus que vous connaissez. Et en fait, je crois que nous sommes appelés à être comme une paire de jumelles où la personne, au travers de notre vie, va mieux voir qui est Jésus, va voir Jésus plus nettement, par juste en étant en relation avec nous, en voyant notre vie, dans la simplicité, sans pression, eh ben, ils vont pouvoir mieux voir qui est Jésus. Comme au travers d'une paire de jumelles, montrons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Chemin, vérité, vie, fondamental, c'est ça, comme ça que Jésus s'est présenté en Jean 14, 6. Vous connaissez bien sûr tous ce verset, ces trois « je suis ». Mais est-ce qu'on peut ouvrir notre maison sans montrer ça? Jésus, le chemin. Alors j'aimerais juste m'arrêter sur ces trois points ce matin. Jésus, il dit qu'il est le chemin. Il dit pas connaître un éventuel chemin. Il est lui-même ce chemin. Il ne s'agit pas de marcher sur Jésus, vous l'aurez compris. Hein, Jésus est le chemin, puis on va marcher sur Jésus. Non, mais Jésus, il nous offre un chemin relationnel qui mène au Père. Et c'est important, c'est toutes des choses que vous allez pouvoir vivre et exprimer aux gens autour de vous. Sans Dieu, on est comme des enfants orphelins, des enfants séparés de leurs parents. Et ceux qui l'ont vécu humainement, ils savent quel vide, quel manque ça crée. Bah, spirituellement, c'est la même chose. Il y a un vide dans nos cœurs tant que nous ne connaissons pas Dieu qui se présente à nous comme un Père. Et c'est par Jésus qu'on peut le connaître. Jésus est celui qui nous conduit vers notre Papa, vers notre Père. Il y a un seul moyen d'y arriver, c'est Jésus. Alors à vous qui êtes chrétiens dans ce lieu, votre vie, elle est sur ce chemin. Vous avez choisi de marcher avec Jésus, de le suivre sur cette petite route étroite, sinueuse, escarpée parfois, mais qui mène à Dieu. C'est vrai, sur ce chemin, il y a des épreuves, des vents contraires, mais vous avez pu l'expérimenter, il y a une paix qui est surnaturelle. Il y a une joie qui donne de la force. Il y a une grâce qui est là sur ce chemin. Il y a son amour qui comble nos cœurs. Donc, amenez à Jésus. Montrer Jésus, c'est ouvrir votre parcours de vie. C'est dire à celui qui est avec vous, mais regarde mon parcours. Est-ce que vous, parfois vous avez encore ouvert votre vie à quelqu'un? Regarde mon parcours de vie. Regarde où j'en suis. Regarde mon chemin. Un chemin qui n'est pas toujours facile. Mais un chemin où je vis la présence de Dieu, où il y a une grâce sur ce chemin, il y a de l'amour. Donc, le discipulat, c'est ouvrir ma vie pour montrer Jésus. Puis c'est aussi rappeler que Jésus a en réserve pour la personne un chemin tout tracé qui mène aussi à Dieu. Il a un chemin pour nos vies. Il est la solution qui mène au Père. Et ce chemin, il vaut la peine d'être emprunté. Au travers de nos vies, montrons que Jésus est le chemin. Deuxièmement, montrons que Jésus est la vérité. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui pense détenir une forme de vérité. Jésus nous dit que lui, il est la vérité dont nous avons besoin dans nos vies. Il est la vérité qui révèle Dieu pleinement. C'est Jésus qui montre avec vérité qui est Dieu. C'est son œuvre, il est venu pour ça. Il est venu pour montrer qui est Dieu. Il est la vérité qui vient mettre aussi en lumière nos ténèbres. Il est la vérité qui éclaire nos vies, qui étaient obscurcies par de fausses croyances, aveuglées par des idoles, par l'argent, par le matérialisme, par les dépendances. Il est venu mettre en lumière ces choses-là. Il est la vérité qui nous rend libres. Ça, c'est très important. Jean 8, 31, 32. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Amen. Jésus lui-même, la parole de Dieu devenue homme, mais il dit s'attacher à Jésus, c'est connaître la vérité qui libère. Je lisais un commentateur qui a dit ceci, Jésus est la vérité qui a la puissance parfaite pour faire de la vie une expérience cohérente, indépendamment de ses hauts et de ses bas. La vérité de Jésus, de Dieu dans notre vie, permet une cohérence dans nos vies. Il donne un sens à notre vie. Donc, conduire à Jésus, c'est démontrer dans nos propres vies qu'est-ce que ça signifie connaître celui qui est la vérité. C'est quoi dans ma vie? On a Jésus qui est le chemin et qui est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie? Comment ça se manifeste? Je crois que ça se manifeste par une vie qui n'a rien de caché. Une vie que l'on... on n'a rien de caché que l'on ne voudrait pas montrer aux autres, qu'on ne voudrait pas... On n'a rien... Il y a une authenticité, une vérité qui est là. Et je peux vous dire que ça, c'est grand. Vous pouvez venir regarder ma vie, des amis. Elle n'est pas parfaite. Mais je vis dans la vérité, dans la transparence, à cause de la lumière de Jésus en moi. C'est vivre libéré de tout mensonge, de pièges, de péchés qui font nous fait croire que la vérité est ailleurs, que le bonheur est ailleurs. On est libre de ça, on a compris la vérité, elle est en Jésus. C'est croire en les promesses de Dieu qui sont vraies, les promesses de Dieu qui sont vérité. Puis c'est aussi dire et oser dire la vérité dans l'amour. Nous avons un Dieu de vérité qui, avec amour, avec compassion, avec autorité aussi, il nous dit les choses, il nous les montre. Et dans la même manière, dans notre vie de tous les jours, on doit pouvoir aussi dire les choses avec vérité, vivre de cette vérité. Alors ça peut vous sembler très banal tout ça, mais je peux vous dire que ce n'est pas banal pour tout le monde. Voir cela dans un foyer, voir la vérité dans un foyer, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de secret de famille, il n'y a pas de cloisonnement. Ça touche. C'est voir Jésus de près. Combien aimeraient vivre dans la vérité? Combien de gens autour de nous aimeraient vivre libérés? Combien aimeraient trouver un sens à leur existence? C'est possible en Jésus. Juste avec votre vie, vous allez pouvoir montrer qu'il est la vérité, qu'il libère. Je termine avec ce troisième point. Jésus est la vie. Jésus, la vie, c'est Zoé dans le grec, qui signifie la plénitude absolue de vie, la vie vraie et véritable, une vie active et vigoureuse. Ça fait envie, hein? Amen. Une vie pleine. Le même terme est utilisé en Jean 10:10 lorsque Jésus dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Donc, montrer Jésus, amener à Jésus, c'est montrer la vie. C'est mener à cette réalité d'un Dieu qui nous veut du bien, qui nous aime et qui veut nous donner la vie, qui veut nous donner sa vie. Donc, vivre une vie abondante, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que c'est simplement saisir cette vie qu'il nous offre, qu'il nous a offert, lui qui est mort, qui est ressuscité à la croix. C'est vivre une vie victorieuse sur l'ennemi. C'est vivre avec les dons qu'il nous donne. C'est vivre de ses ressources, de ses promesses. C'est vivre ses bénédictions. Souvent, on se prive en fait de tout ce que Dieu nous offre. De la vie de l'Esprit en nous. on fait par nous-mêmes, puis on se prive de cette vie abondante qu'il veut nous offrir. C'est vivre sans l'inquiétude du lendemain. Ça, je crois que c'est important. Sans l'inquiétude du lendemain. C'est une vie qui est caractérisée par la joie et la paix. Puis je ne parle pas d'une vie facile, une vie de facilité, mais une vie pleine de sa présence. Une vie avec la plénitude de Dieu par Christ qui vit en nous. Paul a dit en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, on a la plénitude de vie, lorsque Christ vit en nous. Cette vie abondante, vous l'avez déjà, vous l'avez reçue, les amis. Est-ce que vous avez l'impression de la vivre? Moi, je suis sûr qu'il y a plusieurs endroits où vous savez, ça, ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Vous l'avez déjà. C'est cette différence que Jésus va faire par sa présence dans votre quotidien, dans votre manière de vivre les épreuves. On n'est pas exempt des épreuves, mais la vie abondante que Dieu nous donne nous permet de vivre l'épreuve avec lui. C'est dans votre manière de vous réjouir. C'est différent, on se réjouit d'une manière différente en Jésus que quand on n'a pas Jésus, quand on n'a pas la vie de Jésus. C'est notre manière d'envisager l'avenir. On n'envisage pas l'avenir avec la vie de Jésus, la même chose que quand on n'a pas d'espoir. C'est notre manière de profiter de ce que Dieu nous donne aujourd'hui, de ce contentement que Jésus nous donne aujourd'hui, on en profite pleinement, on vit la vie qu'il nous donne aujourd'hui, sans la peur du lendemain. Tout cela, ça ne vient pas de vous, mais tout cela, ça montre Jésus. Et c'est ça qu'on est appelé à vivre, à montrer. Au travers de notre vie. C'est rien de spécial. Alors je conclue simplement en disant, le discipulat, ce n'est pas une pression sur nos épaules, mais c'est vivre Jésus naturellement au quotidien. C'est simplement être comme une paire de jumelles qui pointe sur Jésus et qui montre clairement qu'il est pour nous le seul chemin, la vérité et la vie. Donc je vous redis, je crois que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour commencer à déverrouiller vos maisons, afin que l'Esprit de Dieu puisse visiter vos foyers, puisque pour que vos foyers deviennent cette montagne des oliviers, un lieu de réveil, un lieu de partage, de formation, un lieu de vie qui mène à Jésus. Amen. Je vous invite simplement à incliner vos têtes. Et puis pour tous ceux qui aspirent à cela, à être cette paire de jumelles, nous allons simplement prier. Père, on te redit encore une fois que c'est un privilège de te connaître, un privilège d'avoir été réconcilié avec toi, d'être conduit à toi par Jésus. Seigneur, c'est un cadeau de t'avoir vivant dans nos vies par l'Esprit Saint, vivant dans nos foyers, dans nos maisons. Saint-Esprit, on accueille l'œuvre encore que tu veux faire dans nos maisons et dans nos vies. Seigneur, on prie que dans cette année, des foyers s'ouvrent à ce que toi tu as prévu d'avance. Seigneur Jésus, on prie que nous ne soyons pas des religieux qui montrent des lois, des choses qu'on ne peut pas faire, mais qu'on puisse simplement être cette paire de jumelles qui pointe sur toi, et qui vient montrer l'espoir, qui vient montrer un chemin, le chemin, qui vient montrer cette vérité que tu es, cette vérité absolue, qui vient montrer la vie, cette vie abondante qui vient combler le vide de nos cœurs, qui vient remplir notre existence, qui vient donner un sens à nos vies. Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie. On désire que nos maisons pointent vers cette réalité-là, que beaucoup puissent trouver ton chemin au travers de nos vies. Père, encore une fois, on dépose devant toi tout égoïsme, toute volonté de faire par nous-mêmes. On dépose aussi tout esprit de culpabilité qui viendrait nous chercher puis nous dire « qu'est-ce que tu fais depuis tant d'années ?» On dépose ces choses et on les refuse. Mais on accueille la vie de ton esprit une fois et encore dans nos vies, dans notre famille. Seigneur, on désire que tu viennes habiter en nous, Christ, que tu grandisses en nous et que nous diminuions. Alléluia. Conduis-nous à l'essentiel. Dans le nom de Jésus. Amen.